Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Notre voyage aujourd'hui débute à Nice. Sur les hauteurs de la ville, j'ai retrouvé mon hôte, Yannick Rumpala. Notre destination se situe quelque part entre demain et le siècle prochain. Pour nous y rendre, le livre de Yannick sera notre guide. Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur. Ensemble, nous voyageons au fil des œuvres de science-fiction que Yannick a abordées avec son œil de politiste pour mieux questionner notre monde contemporain. La science-fiction est notre boussole, 6 lignes de fuite devant nous et un repère dans le ciel, l'éthique du futur. Montez à bord et sachez dès à présent qu'après cet épisode, la science-fiction ne sera plus jamais la même à votre esprit. Le futur commence ici et maintenant.
Bonjour Yannick.
Bonjour.
Merci à toi de me faire avoir un super paysage sur la mer. Nous sommes à Nice, vous qui nous écoutez. Il fait un temps magnifique alors que nous sommes le 25 janvier. C'est plutôt agréable.
C'est un temps de printemps.
Voilà, c'est ça. On se croirait au printemps. Yannick, nous sommes à la fac de droit de l'Université de Nice. Pourquoi donc ?
Ah, tout simplement parce que j'y suis enseignant. J'enseigne la science politique ici.
Mmh. Tu travailles aussi sur les questions de développement durable, de gouvernance, des sujets sur lesquels tu as travaillé, je crois.
Alors, effectivement, la science-fiction dont on va parler probablement après n'est qu'un petit aspect de mes travaux de recherche. Initialement, oui, ma thèse portait sur les politiques d'environnement et mes travaux ensuite se sont prolongés sur les politiques de développement durable. Et plutôt du côté de ce que font les gouvernements, les grandes institutions nationales et européennes. Donc, pour étudier dans quelle mesure l'arrivée de thématiques comme celle du développement durable obligeait les politiques nationales et supranationales à s'adapter dans leurs discours, dans leurs pratiques, dans leurs instruments et dans potentiellement leurs effets. Mais ça, c'est notre question.
D'accord. Tu l'as évoqué, la science-fiction, qui est un de tes champs d'investigation. On va en parler parce que j'ai entre les mains ton livre qui a été publié l'année dernière, en 2018, je crois, ou fin 2017 ?
Fin août 2018,
voilà. D'accord. Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur. Donc cet épisode, il va être un peu spécial parce que je vais pas te demander, tu n'as pas choisi un thème et on va pas se projeter pour imaginer le monde en 2050, mais la science-fiction, c'est l'avenir. Donc ça inclut 2050 et j'ai envie qu'on parle ensemble de ce livre. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me dises comment tu as rencontré la science-fiction.
Comme beaucoup de garçons de mon âge, c'est adolescent. Donc ouais. Moi, je suis tombé dedans, en fait, quand j'étais petit. Donc, par mes lectures de gamin. Donc, on a tous commencé comme ça. Enfin, moi, je suis de la génération Star Wars.
Hein, oui, moi aussi.
Voilà. Donc, j'ai grandi avec les étoiles dans les yeux grâce à Star Wars. Mm-hmm. Et puis après, avec les lectures, ça a été Asimov, Bradbury. Mm-hmm. Donc, c'est une vieille passion d'adolescent qui a survécu. Pour faire un petit peu l'histoire du bouquin, en fait, puisque je pense que c'était ta question suivante. Donc, en fait, ce qui s'est passé à Nice, c'est qu'il y a une petite communauté d'auteurs de science-fiction. Et il y a quelques années, c'est monté dans les RPI niçois une journée science et fiction dans un petit village qui s'appelle Péresque. Et il y a quelques années, c'est monté un petit groupe d'auteurs et puis de gens un peu périphériques où l'idée, ça a été, on prend des sujets chaque année et pendant 3 jours, on se réunit en petite communauté et on discute sur, donc la première année, c'était Kipling, par exemple. Une autre année, ça a été intelligence artificielle. Et il y a une petite émulation qui s'est formée, donc avec tous ces auteurs. Moi, je suis pas auteur, hein, mais à force de fréquenter tous ces gens-là, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose. Le problème, c'est que je suis pas auteur, enfin, je suis pas écrivain. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, si je réfléchissais avec ce que je sais faire, la science politique, pour voir dans quelle mesure la science-fiction pourrait avoir un lien et un intérêt pour la science politique.
Tout à l'heure, tu as évoqué Asimov, et j'ai noté une petite citation de Asimov. « Individuellement, les histoires de science-fiction peuvent paraître triviales aux yeux des philosophes, des critiques d'aujourd'hui, mais l'esprit de la science-fiction, son essence, porte à présent la clé de notre salut, si tant est que nous puissions être sauvés. » Donc, quand tu as commencé à te plonger avec ce regard de la science politique, à un moment, tu t'es dit « oui, c'est vrai ».
Ah, tout à fait. Enfin, c'est même Parce que j'ai essayé de montrer dès le premier article que la science-fiction peut être une manière de penser, mais des vrais enjeux politiques. Ouais. Et d'où un premier article qui s'intitulait « Ce que la science-fiction pourrait apporter à la pensée politique », pour montrer que la science-fiction permet de problématiser, comme on dit chez nous en sciences sociales, c'est-à-dire de transformer des questions qui n'étaient pas forcément évidentes et de les reformuler en quelque sorte en leur donnant un cadre qui permet de donner des incarnations à des vrais enjeux sur les questions technologiques, sur les questions d'environnement sur lesquelles on reviendra, sur les questions sociales aussi. Donc typiquement, qu'est-ce que ça veut dire une société qui est imprégnée par les réseaux sociaux, imprégnée par les mondes virtuels et dans lesquels les individus se retrouvent plongés dans une autre réalité, un autre monde. Ou sur les nanotechnologies, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire une société qui serait transformée de font en compte par le recours aux nanotechnologies. Et pour le coup, l'avantage de la SF, bah, c'est que ça donne des espèces d'expériences de pensée pour donner des incarnations à des enjeux qui sinon resteraient abstraits.
Dans toute la première partie du livre, c'est un peu ça que tu explores, c'est toutes les questions finalement d'aujourd'hui qui sont explorées par la science-fiction, la démographie, les choix socio-économiques, tu as parlé de santé, de nanotechnologie, de gouvernance aussi, de politique. Et puis à partir de là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, dans le grand public, quand on entend parler de science-fiction, on entend de plus en plus aujourd'hui le terme de dystopie. Dystopie, utopie, une vision positive, négative. Et très vite, dans le livre, et dès l'introduction, d'ailleurs, tu le dis, cette approche binaire, elle est loin d'être suffisante et elle réduit le champ de la réflexion.
C'est aussi ce qui m'a animé quand j'ai écrit le livre, c'est cette espèce d'agacement face à la saturation de la SF d'aujourd'hui par la dystopie. À tel point qu'on se dit, mais est-ce qu'il est possible d'imaginer un univers qui soit moins pessimiste et qui garde une part d'espoir ? Une des ambitions, ça a été de faire réémerger les petites bribes d'espoir, d'espérance qui pourraient se trouver... soit dans les films, c'est rare, mais surtout dans la littérature. Et le troisième chapitre visait à faire une espèce de typologie de ce que j'appelais les lignes de fuite, qui permettrait de se sortir d'un certain nombre de problématiques écologiques actuelles, donc en donnant différentes pistes de ce que pourraient être des formes de transformation du monde, mais qui resteraient respectueuses de notre environnement.
Toujours sur cette question d'approche non-binaire, tu expliques aussi que un film ou une œuvre de science-fiction qui a priori semble plutôt pessimiste sur l'avenir du monde, dans la trajectoire et les hypothèses qui sont construites, on peut trouver des points positifs et vice-versa. Ce qui veut dire que on est dans la complexité là aussi.
Et on peut récupérer des ressources en y réfléchissant et en se disant, il y a cette situation, comment je fais pour en sortir? Et qu'est-ce qui reste entre les mains des acteurs pour corriger une situation qui leur est défavorable? Certes, effectivement, dans certains cas, c'est très pessimiste, mais on peut toujours trouver des capacités ou des manières dont les acteurs se sortent et réenvisagent l'avenir de manière positive. Même si, dans certains cas, c'est effectivement...
Oui, ça l'est aussi. Oui. Et alors, tu explores une troisième voie, tu parles de prototopie.
Oui.
Alors j'aimerais que tu expliques ce terme, est-ce que tu entends parler ? Alors,
l'idée de base, c'était de casser cette espèce de binarité justement entre dystopie et utopie, comme s'il y avait juste deux pôles, et comme si on ne se préoccupait de ce qu'il y avait entre les deux. Mmh. Et l'ambition du deuxième chapitre, c'est justement de restaurer, moi ce que je considère comme une force de la science-fiction, qui est le côté exploratoire. Ouais. On prend des hypothèses, et puis on tire le fil pour voir jusqu'où elles mènent, comme si on explorait des cas... expérimentaux dans un laboratoire, sauf que le laboratoire là, c'est pas un laboratoire scientifique, mais c'est le laboratoire de la pensée littéraire ou cinématographique, ou même les jeux vidéo, ou même les comics. Et proto, parce que c'est justement cet aspect qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister, avec ces auteurs qui posent des hypothèses, et puis ils s'amusent à donner des situations dans lesquelles fonctionne cette hypothèse.
Je veux lire une phrase de ton livre qui arrive à la page 160, mais je pense qu'elle aurait pu quasiment être sur la première page. Dans une période qui paraît couramment soumise au présentisme, voire absorbée dans une culture de l'instantanéité, la science-fiction redonne une importance au futur, rappelle le caractère transitoire du temps présent et sous-entend que, hormis des catastrophes dues à des aléas non maîtrisables, comme la collision avec un astéroïde, les situations décrites fictivement restent fondamentalement les résultats de choix antérieurs faits par les collectifs humains. Avec cette phrase, tu positionnes vraiment le champ de la science-fiction comme étant un outil pour interroger la politique.
Tout à fait. Le fait que nos sociétés font des choix à des moments donnés Et c'est que c'est sur ces choix qu'il faut réfléchir. Et l'avantage de la science-fiction, c'est de montrer ce que donneraient des trajectoires si on les poussait jusqu'au bout. Mmh. On parlait de nanotechnologie, bah, qu'est-ce que donnerait une société qui aurait fait le choix de s'engager massivement sur cette solution-là? Donc avec les avantages, mais aussi les inconvénients. Mmh. Donc j'aboutis à cette idée en conclusion, qu'en fait la science-fiction pourrait fonctionner comme une espèce de boussole, comme une sorte de compas de navigation. On aurait effectivement des trajectoires construites soit par des auteurs, sous forme de livres, soit sous forme de films, et on pourrait au moins se dire, bah, là, si je poursuis la trajectoire, je sais que je me soumets potentiellement à ce type de risque. Et donc j'ai au moins une image pour me dire c'est cette situation-là que j'ai surtout pas envie de voir survenir, pour éviter ce type de risque qui arriverait.
Plusieurs fois dans le livre, tu reviens à cette question de la problématisation, et si ?
Une fois qu'on a ces problématisations, on a une image de ce vers quoi on veut aller ou pas aller, et on peut construire ses choix en fonction de ses images. C'est pour ça que le terme éthique du futur, dans le sous-titre, il est éminemment important. Mmh. La science-fiction, elle permet de montrer que toutes les actions humaines ont des conséquences, et la science-fiction, elle donne des représentations de ces conséquences potentielles. Mmh. Et au moins, on sait ce que ça donnerait si on faisait tel choix, et on sait que si on n'a pas envie que ce choix se produise, il faut aller vers une autre trajectoire.
Ouais. Dans quelques instants, on va justement en parler un peu plus de cette éthique du futur, ce que tu entends par là. Moi, j'ai repéré trois éléments en tout cas important. D'abord, la place de l'écologie, finalement, très tôt.
Elle y est présente quasiment dès les débuts de la science-fiction. Si on relit des auteurs comme Herbert George Wells, on trouve déjà des formes de problématisation des questions énergétiques. Alors, certes, pas dans les problématiques actuelles, mais on se posait déjà la question, qu'est-ce que c'est une transition d'une société dominée par le charbon vers autre chose? Et l'intérêt des travaux d'historiens qui ont travaillé sur ces périodes-là, c'est justement qu'ils font réémerger, en fait, des questions qu'on voit, nous, aujourd'hui, sous un angle écologique, mais même si le terme n'existait pas chez Wells, il y avait déjà une forme d'appréhension de ce que pourraient être les enjeux qui allaient venir par la suite.
Et d'ailleurs, à un moment, tu évoques dans ton livre, en 1972, le rapport du Club de Rome, et au même moment, il y avait un bouquin qui finalement...
Exactement, qui donne des incarnations imagées de ce que donnerait une société qui ne suivrait pas les bons conseils du Club de Rome.
Oui, voilà. Tu balayes toutes les questions sociales, économiques, environnementales qui sont questionnées par la science-fiction et donc qui peuvent nous servir, comme tu le dis, de compas, de boussole. Et de là, tu mets en évidence justement cette éthique du futur. J'ai vu trois piliers, mais peut-être que j'en ai zappé, que j'ai pas suffisamment bien lu. Et le premier, qui me paraît extrêmement important, c'est la notion d'habitabilité.
Tout à fait. Ah, c'est clairement l'enjeu de notre monde et des années à venir, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour nous, une humanité qui est en croissance démographique, avec des besoins qui sont également croissants pour garder une planète habitable. Les enjeux, enfin voilà, il n'y a pas besoin de les lister, quoi. Réchauffement climatique, pollution, acidification des océans, perte de biodiversité. Il est fort probable que les décennies qui viennent et les siècles qui viennent soient ceux d'une planète beaucoup moins habitable.
Ce que j'ai aussi aimé dans cette notion d'habitabilité, c'est que pour bien se la poser, en fait, il faut interroger les rapports de l'individu, de l'homme, de l'humain.
Voilà, il faut prendre conscience que cette habitabilité, c'est pas quelque chose qui va être subi, c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Donc, si on n'y réfléchit pas actuellement, un petit peu, parce qu'on va commencer à voir cette dégradation, mais surtout les générations futures qui perdront en habitabilité à cause des choix qu'on aura fait. Un des intérêts de la SF, c'est de montrer que justement, des situations qu'on croit futures sont le résultat de choix qui ont été faits antérieurement.
C'est ça.
Donc, typiquement, les bâtiments qu'on voit dans les films, ou les situations dégradées qu'on voit dans certains romans, sont le résultat de choix qui ont été faits potentiellement par notre génération.
Ouais, exactement.
Et qui persisteront. Voilà.
On a fait des choix qui peuvent être malheureusement durables. détourner l'expression de développement durable.
Voire même irréversible, sur lesquels on ne pourra pas revenir. Oui, tout à fait.
Ouais. Habitabilité, et puis, c'est très lié, autre enjeu fort, cette éthique du futur, elle doit nous pousser à sortir au plus vite de l'anthropocène. Je sais pas si je le formule bien, mais en tout cas, l'anthropocène, supériorité de l'humain sur l'ensemble de ce qui l'entoure et des impacts, en fait, sur l'environnement, et qu'il faut sortir de cette posture.
Alors, l'anthropocène, malheureusement, je vais pas rentrer dans le débat sur la pertinence de la notion, mais il est probable qu'on n'en sorte pas. C'est-à-dire qu'un certain nombre des processus écologiques qui ont été engagés vont, malheureusement, faire sentir leurs effets. Par contre, ceux dont il faut effectivement sortir, c'est le type de modèle de société qui a produit cet anthropocène. Mmh. Là, la question, elle est incontournable. C'est-à-dire réfléchir à un autre modèle qui ne soit plus dans l'accumulation, qui soit dans un autre rapport à la consommation, qui soit dans un autre rapport au rapport entre les individus et aux environnements. D'où un des aspects que j'ai aussi montré à travers cette notion d'habitabilité, que c'est une question de relation. Mmh. Et ce que met en scène la science-fiction, c'est certes des humains ou des entités pensantes, mais c'est aussi leur relation par rapport à un environnement dont ils font partie et dont ils ne peuvent s'abstraire. Enfin, ils sont dedans, donc les bêtises qu'ils font produisent des conséquences sur eux, donc on ne peut pas s'abstraire. Voilà. Même s'il y a cette espèce de prétention, cette hubris humaine à croire qu'elle est en dehors du monde, non, elle est dans le monde de l'humanité et elle doit prendre conscience des relations avec toutes les entités qui les entourent. Voilà, ce qu'on appelle les non-humains chez nous en science-fiction.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que pour construire ce monde en 2050 et avant et après, il faut sortir de cette approche l'humain, un point c'est tout, c'est vraiment...
Voilà, ça n'est plus l'humain au centre, mais c'est l'humain parmi une variété de milieux dont il n'est qu'une partie, et la partie peut-être la plus nuisible si on considère ce que l'humain produit, mais en tout cas, il n'en est qu'une partie et tout ce qu'il aura fait, potentiellement, risque de rejaillir sur sa propre santé.
Ouais. Tu soulignes l'importance justement d'interroger les franges, les frontières justement entre, alors que ce soit humain, non humain, entre biologie, technologie.
Tout à fait.
Et c'est là que vont se nicher finalement.
Exactement, parce que ce sont toute une série de frontières qui sont en train d'être dissoutes par la technique. Mmh. La séparation entre le réel et le virtuel est en train d'être dissoute. La frontière entre le physique, le matériel et l'immatériel est en train d'être dissoute. Et c'est un des autres grands intérêts de la science-fiction, c'est de montrer ce brouillage des frontières, avec des vieilles thématiques comme celle du cyborg, par exemple, le fait que les individus puissent être augmentés de prothèses. Enfin, la science-fiction y réfléchit depuis des années. Donc, qu'est-ce que serait une société dans laquelle certains individus pourraient effectivement s'augmenter avec le biais de prothèses et d'autres n'y auraient pas accès? Bon, qu'est-ce que ça change dans les rapports sociaux? Qu'est-ce que ça change dans les inégalités?
Je vais lire un autre petit extrait du livre qui arrive beaucoup plus tard, page 237. Imaginer le futur, se donner une capacité pour le penser, c'est être dans un rapport au monde qui commence à être moins passif, c'est amorcer la constitution de prise.
Exactement.
Et donc finalement, la science-fiction, depuis des décennies, elle nous propose des prises, mais on les saisit pas ou pas à la hauteur de ce que l'on pourrait faire. Parce que ce que je me suis dit aussi en te lisant, c'est... Évidemment, j'ai découvert plein de choses, mais je me suis dit, quand tu faisais référence à des livres que j'ai lus ou des films que j'ai vus, je fais « Ah mais oui !» Enfin. Comme si j'avais pu le pressentir, mais c'était pas formalisé. Et finalement, on a une culture des questionnements qui sont diffus dans la société,
exactement,
avec des œuvres qui sont très populaires. Et maintenant, faut sortir les prises, quoi.
Donc, typiquement, sur la question des prises de réflexion, c'est qu'est-ce que serait notre rapport à des entités artificielles? Et en fait, si les robots nous paraissent aujourd'hui tellement familiers, c'est qu'en fait, la science-fiction, depuis des années, nous a acclimatés à des univers où les robots sont présents. Quoi. Et à nouveau avec Star Wars, où le robot fait partie de l'environnement courant. Et donc, la science-fiction nous y a préparés. Mais si on prend le temps d'y réfléchir, la science-fiction peut nous dire, comment ça fonctionnerait une société dans laquelle tous nos compagnons sont non plus seulement des humains, mais des entités artificielles.
Ouais. Tu expliques aussi que pour tes recherches, tu t'es concentré sur la production francophone ou anglophone, et à un moment, tu évoques que parce qu'il y a eu des ouvrages sur, par exemple, l'afrofuturisme ou la science-fiction dans le monde asiatique, et que c'est aussi intéressant parce que cette production, elle montre aussi qu'il y a des trajectoires qui...
Et surtout des manières d'envisager le monde différemment. Donc, malheureusement, je ne lis que l'anglais et le français et un petit peu l'allemand, mais... comme disent certains commentateurs, en fait, ce qui n'est pas traduit en anglais n'existe quasiment pas. Et voilà. Alors qu'il existe une vraie science-fiction africaine et il existe une vraie science-fiction arabe ou asiatique ou qui s'inscrit dans d'autres traditions. Mais malheureusement, comme c'est pas traduit, on n'y a pas accès et on loupe. Mais vraiment d'autres manières de voir le monde. Alors, heureusement, certains auteurs chinois commencent à être traduits et on commence à se rendre compte que le fait d'être dans une culture différente peut aussi... Enfin, on sait que les Asiatiques ont des rapports au monde qui sont différents. Et c'est justement une autre manière d'envisager ce que pourrait être notre réalité.
Et donc, on pourrait envisager des suites avec des études comparées qui viennent... enrichir encore la problématisation et les questionnements par ces...
Alors, ça commence à se faire dans certains milieux académiques. Donc, il commence à y avoir des travaux, effectivement, sur la science-fiction africaine, arabe, asiatique. Mais ça reste malheureusement périphérique, puisque enfin, on va pas se le cacher, hein, la SF c'est aussi un marché, c'est un produit culturel, et le marché est clairement dominé par les, non seulement les anglo-saxons, mais les américains. Et avec l'imprégnation d'Hollywood, évidemment, qui, voilà.
Et qui, avec le risque d'ailleurs, à un moment tu évoques, un des risques potentiels, c'est une certaine habituation.
Oui, tout à fait. Bah, typiquement, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les dystopies,
ou sur
les dystopies aussi. Enfin, le fait que les dystopies soient à ce point présents, ou que les films de catastrophe soient à ce point présents, bah, crée une espèce d'habituation, puisque les gens se disent, bah, c'est pas si grave la situation dans laquelle on est, puisque on n'en est pas encore à ce que décrit le film et qui pourrait.
Los Angeles n'est pas sous le sable ou sous la glace.
Paris n'a pas encore été détruit. Le niveau des eaux n'a pas encore augmenté au point d'engloutir le capital. Donc après tout, voilà. On a encore un petit peu de temps. Quoi.
Ouais.
Donc il y a un effet à la fois de catharsis, c'est une manière de se libérer d'angoisse, et puis un effet d'habituation, parce qu'on se dit, bah oui, tiens, finalement, c'est encore confortable, et à commencer par la situation dans laquelle on est actuellement. Quoi.
Ouais.
15 degrés au mois de janvier, même si c'est Nice,
c'est
pas tout à fait une situation d'un mois d'hiver.
Ouais, c'est vrai. Tu l'as évoqué tout à l'heure, dans la dernière partie du livre, tu définis des lignes de fuite, six grandes typologies, six chemins possibles finalement.
Six trajectoires possibles.
Six trajectoires possibles. Le mot trajectoire est très beau, je l'aime beaucoup, et il est très important dans le livre. La première, l'abstention technologique.
Alors ça, c'est le choix d'une société qui aurait pris conscience que ses développements technologiques auraient été trop loin et qui déciderait de laisser la planète se reposer pour donc éviter tous ces désagréments, donc en faisant le choix que j'ai appelé de ne plus utiliser des technologies. Alors j'en donne deux versions, une version relativement démocratique et pour le coup le choix est accepté collectivement, c'est celle qui se trouve dans une novella, qui est soit un court roman, soit une longue nouvelle de Marion Zimmer Bradley, qui raconte l'histoire d'un groupe d'astronautes qui était parti sur une autre planète et qui revient sur Terre. Et bizarrement, la société dans laquelle ils tombent ne paraît plus s'intéresser aux technologies. Et même leur vaisseau atterrit sans susciter le moindre intérêt de la part de la population. Et ils se disent, nous on aurait pensé qu'en revenant, la société aurait encore progressé. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'elle est apparemment revenue en arrière. Et progressivement, les héros vont s'apercevoir que la société a fait le choix de se dire, ça nous suffit, on n'a pas besoin d'aller au-delà, et plutôt que de mettre en branle les processus qu'on ne maîtriserait pas et qui auraient des effets désagréables, on arrête.
Voilà. Ouais. Et pour autant, la technologie reste présente.
Voilà. C'est une des subtilités qu'on découvrira à la fin, c'est qu'elle n'a pas disparu, et qu'en cas d'urgence, par exemple, on peut tout à fait recourir à des technologies médicales très avancées, voire à des transports qui vont très vite pour sauver une personne. Donc ça n'a pas disparu. Sauf qu'on fait juste le choix de se dire, tant qu'on n'en a pas besoin, il n'y a pas besoin d'aller dans des solutions extrêmement coûteuses en énergie ou problématiques.
La technologie revient au service des besoins et n'est plus
tout à fait,
une fin
tout à fait. Il y a une autre version de l'abstention technologique qui est moins radieuse, c'est celle qu'on trouve dans un roman de Michel Jory qui s'appelle « Les écumeurs du silence », où là, on raconte en quelque sorte à la population qu'elle doit se mettre en sommeil sous terre pour laisser à ce qui est en surface le temps de se régénérer. Et le roman va avancer et on va s'apercevoir qu'en fait, ceux qui croient avoir été mis en sommeil sous terre sont peut-être pas tout à fait mis en sommeil, qu'ils sont peut-être pas tout à fait acceptés, ou en tout cas qu'on leur racontait une histoire qui était peut-être pas celle. Voilà. Donc je dévoile pas trop les subtilités de la fin du roman, mais là pour le coup c'est un choix d'abstention qui n'est pas tout à fait démocratique. Ou en tout cas on a convaincu la population qu'il fallait le faire, mais pour des motifs que je ne dévoilerai pas, mais qui sont
il faudra aller lire le livre.
Voilà, qui sont très ambigus.
Autre ligne de fuite, la frugalité autogérée.
Alors ça, c'est celle qu'on trouve dans un très beau roman d'une grande auteure qui est morte malheureusement l'année dernière, qui s'appelle Ursula Le Guin, qui décrit une espèce de séparation.
Donc dans le roman Les Dépossédés.
Les Dépossédés, pardon. Où on voit fonctionner une société sur une petite lune d'une autre planète, où donc c'est une espèce de communauté qui se trouvait auparavant d'une société un peu capitaliste et consumériste, qui dit c'est plus notre modèle, nous on va s'exiler sur une autre planète. Par contre, cette autre planète, elle est dans des conditions de vie très très dures, puisqu'en fait c'est une ancienne colonie minière, donc les plantes ont du mal à pousser, les récoltes dans certains cas sont même très très faméliques. L'intérêt de ce roman, c'est de montrer comment une société peut fonctionner dans un monde de ressources qui est rare et accepté démocratiquement. Donc d'où le terme de frugalité, mais autogéré, parce que la société fonctionne sur des principes décentralisés, autogestionnaires, quasi anarchisants, et là aussi avec des modes de relations interpersonnelles qui ont très fortement évolué, puisque la notion de propriété a disparu. Les pronoms possessifs oui. montons ça, c'est ça, sont bannis de cette société. Mmh. Alors, c'est pour ça que Ursula Le Guin, dans le sous-titre original de son roman, elle met une utopie ambiguë. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est
ça que tu le précises d'ailleurs dans le livre. Moi, je ne connaissais pas le titre original en anglais.
Et effectivement, certes, c'est autogéré, mais malgré tout, avec l'intériorisation de conduite et de normes de comportement qui peuvent poser question. Quand un enfant n'a pas le droit de dire « ma mère », voilà, c'est une espèce de pression. De même que les personnages ne choisissent pas leur prénom. En fait, c'est un calculateur qui, sur la base de 6 lettres et de manière plus ou moins aléatoire, va choisir les prénoms des habitants de cette petite lune. Officiellement, c'est autogéré. Après, voilà. Mais c'est aussi la subtilité du roman, c'est de montrer que si on veut des environnements préservés, il faut aussi faire une forme d'effort, et il y a forcément des formes de gouvernement des conduites qui se mettent en place. Ouais. Toute gestion des environnements suppose des formes de gouvernement des conduites. La question, c'est... Est-ce que ce gouvernement est démocratique? Comment est-ce que ces choix sont faits collectivement? Et jusqu'où va-t-on dans l'imposition de ces normes? Donc là, en l'occurrence, c'est accepté, mais pas par tous, puisque le héros va faire le choix de partir dans l'ancienne société capitaliste pour pouvoir développer ses recherches. Mais il va pas percevoir que l'autre modèle n'est pas forcément plus enviable que celui qu'il a quitté.
Ouais, qu'il a quitté.
C'est un très beau roman que je conseille.
Absolument. Troisième ligne de fuite, sécession. La sécession arcadienne.
Voilà, donc ça c'est celle que j'ai emprunté à un roman qui était un peu tombé dans l'oubli, d'un Américain qui s'appelle Ernest Kallenbach. Le roman s'appelle Écotopia. Il vient très heureusement de ressortir l'année dernière chez Rue de l'Échiquier.
D'accord.
Puisqu'on avait une vieille traduction française des années 70, le roman date de 75, il a été traduit assez rapidement. En version originale en anglais, c'est des millions d'exemplaires qui ont été vendus. Chez nous, il est un peu moins connu, mais c'est un très bel exemple des espèces d'utopie contre-culturelle qui étaient présentes à la fin des années 60 et 70. Et a posteriori, le roman est très intéressant parce qu'il y a des espèces de fulgurances de ce qui aurait pu être des solutions mises en pratique aujourd'hui. Nous, à Nice, on a le vélo bleu, par exemple, le vélo partage. Ouais. Il est anticipé, le vélo en libre-service est anticipé dans Écotopia, plus de 40 ans en avant. Ouais. Le système des vidéoconférences aussi, pour éviter de se déplacer et de consommer des transports, est anticipé en quelque sorte dans Écotopia. Le recyclage, la généralisation du recyclage, y compris dans les transports en commun, avec des réceptacles prévus à cet usage, est anticipé dans Écotopia. Le plastique à base de végétaux recyclables, et dans une espèce de fulgurance également anticipée. Et quand on le relit a posteriori, on se dit, mais voilà, il y avait un tas d'idées qui auraient pu être mises en place et qui auraient pu nous éviter tous les désagréments qui pour être franc, c'est pas de la grande littérature, c'est pas d'un style éblouissant, mais par contre, sur le plan des idées et de la mise en situation, c'est bluffant. Alors, sécession arcadienne, deux mots pour expliquer, c'est parce qu'en fait, c'est deux et demi États des États-Unis qui ont fait le choix de se retirer de leurs États, enfin des autres États, pour installer leur propre modèle, donc non capitaliste, non consumériste, non productiviste, et en créant cette espèce d'enclave, donc Écotopia, c'est voilà, utopie écologique. Donc ils décident de se mettre à l'écart. Alors le roman va montrer que ça n'a pas été facile, qu'il a fallu faire là aussi un certain nombre de concessions, mais on a également une forme de mise en scène d'un autre choix de collectivité.
Quatrième ligne de fuite, l'abondance automatisée.
Alors, autant les versions précédentes étaient des versions low-tech, basse technologie, autant là, c'est la version high-tech. Ouais. C'est celle qui est décrite par Ian Banks, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Fréquemment, on nous dit, il n'y a pas eu d'utopie depuis quelques années. Certains auteurs considèrent que depuis l'informatique, il n'y a pas eu d'utopie. Moi, je dis que si, et peut-être que celle-ci en est une. Banks nous décrit une vaste civilisation pangalactique qui s'appelle la culture, qui fonctionnerait sur des principes libertaires, hédonistes. Et elle le peut parce qu'elle a atteint un niveau technologique extrêmement développé. Elle est capable de maîtriser la matière, elle est capable de maîtriser l'énergie, et donc sur le plan écologique, elle fait quasiment ce qu'elle veut. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a une forme de préservation écologique. Parce que typiquement, pour construire les gigantesques habitats spatiaux sur lesquels elle habite, elle n'a pas besoin d'aller exploiter les minerais sur une planète, elle récupère tout simplement, les astéroïdes, les minerais qui traînent dans l'espace, pour s'en servir pour construire les habitats, sans aller polluer en extrayant. Donc c'est plus un modèle extractiviste, c'est on recycle en quelque sorte tout ce qui traîne dans l'espace et qui n'a pas d'utilité. Et automatisé, parce que cette société, elle est gérée par des intelligences artificielles.
Et oui, les voilà, les fameuses.
Voilà. Et c'est en cela que Banks est très fort, parce qu'il a inventé un nouveau type de régime politique, classique par rapport aux trois types d'Aristote. Oui. Il a inventé ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que j'ai appelé, l'anarchie assistée par ordinateur. Mm-hmm. Et l'hypothèse qu'il fait en quelque sorte, bah, c'est que l'anarchie, ça pourrait fonctionner, mais grâce aux puissances de calcul qu'auraient les intelligences artificielles. Donc c'est elle qui ferait en quelque sorte qui résoudrait en quelque sorte les problèmes d'allocation des ressources, puisqu'elle elle pourrait tout planifier par les puissances de calcul colossales.
Et c'est ça qui est drôle aussi, c'est de pouvoir juxtaposer des modèles qui paraissent complètement contradictoires. Et c'est ça aussi richesse des propositions, des hypothèses.
Exactement. Et la force de Yann Banks, c'est de montrer aussi toute la part d'ambiguïté qu'il y aurait dans ce modèle, puisque qui mène le jeu ? Est-ce que ce sont encore les humains ? Est-ce que ce sont les intelligences artificielles ? Dans ces romans, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit encore les humains qui mènent le jeu. Il y a même un des héros d'un des premiers romans qui pose la question, est-ce que les humains ne sont pas devenus les espèces animaux de compagnie des intelligences artificielles, qui les manipulent, qui en font un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà, même si les humains ont l'impression de vivre une vie de plaisir.
Oui, c'est ce que tu disais, l'hédonisme.
L'hédonisme généralisé. Quoi. Voilà.
Cinquième ligne de fuite, le conservationnisme autoritaire.
Alors, qui est peut-être pour le coup une ligne de fuite moins désirable et moins enviable, puisque là, pour le coup, j'en donne deux versions. Hein. Une version où, là aussi, c'est transposé sur une autre planète. Donc, c'est l'histoire. Donc, c'est la première version vient d'un roman de Karen Travis qui s'appelle City of Pearls, en anglais, La Cité de Perles, en français. Donc, il raconte l'histoire d'une expédition humaine qui était partie sur une autre planète et dont on n'avait plus de nouvelles. Donc une autre expédition est montée pour savoir ce que la première expédition est devenue, et la deuxième va découvrir que si la première ne donne plus de nouvelles, c'est parce qu'en fait la première a été en quelque sorte assignée à résidence dans une espèce de réserve où donc non seulement elle est en quelque sorte enfermée, mais ses comportements sont très contraints.
Voilà, c'est ça, il y a une espèce de sage...
Voilà, alors c'est pas un sage, c'est une espèce extraterrestre, donc un guerrier Vessar.
Non, mais voilà, c'est ça.
Voilà, qui est devenu immortel, parce qu'il a été contaminé en quelque sorte par une espèce de parasite qui l'a rendu immortel. Ce guerrier est doté de super pouvoirs, et parce qu'il a eu une vie antérieure un peu compliquée, il considère de sa responsabilité de préserver la planète et ses espèces. Et donc, en considérant que toute espèce nouvelle qui viendrait s'y implanter et qui aurait des velléités de développement est potentiellement nuisible, et d'autres espèces qui s'y étaient auparavant essayées ont été rayées brutalement de la planète. Et donc, ce guerrier va imposer également à la deuxième expédition ses prescriptions, d'où l'expression de autoritaire, parce que les humains et autres entités pensantes qui arrivent n'ont pas d'autre choix. C'est rayé de la carte. Donc ça, c'est la version avec entités extraterrestres. Et puis, il y a une autre version qui fait également intervenir les intelligences artificielles, que j'emprunte un roman qui est pour l'instant pas traduit, et j'espère que ça sera un jour en français, qui s'appelle Carnival, d'Elizabeth Beer, qui décrit un petit peu la même situation, mais cette fois-ci sur Terre, où des intelligences artificielles, ayant compris le caractère potentiellement nuisible des humains, leur imposent des limites écologiques. Donc ce sont elles qui calculent jusqu'où il ne faut pas aller, et qui calculent y compris le niveau de population qui ne sont pas dépassés.
C'est ça.
Voilà. Et dans le roman, il y a certains épisodes de ce qui s'appelle dans le roman « Assessment », où la population humaine est évaluée et la population excédentaire est éliminée radicalement pour là aussi préserver des conditions,
des équilibres,
des formes d'équilibre écologique. Donc, ce que pose en creux ces deux romans, même si c'est pas forcément désirable, c'est la question de la démocratie. Voilà, c'est comment est-ce qu'on fait démocratiquement pour accepter des limites écologiques ? Et faut-il un régime autoritaire pour faire en sorte que les populations acceptent un certain nombre de normes écologiques. Alors, ce qui rejoint un courant de pensée qui aujourd'hui a disparu, mais qui a eu son heure de gloire dans les années 70, qui s'appelait l'éco-autoritarisme. Voilà, il y a des auteurs qui, tout à fait sérieusement, ont réfléchi à comment est-ce qu'on imposerait une société d'ordre écologique. Donc avec une espèce de comité des sages ou de technocrates qui viendraient donner les règles de comportement à la population. Alors évidemment, ça pose des sérieuses questions. Enfin, moi je suis politiste, donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est pas un modèle très démocratique,
le moins. Sixième ligne de fuite, la spiritualité naturelle.
Donc c'est celle qui est empruntée à Avatar et qui pour le coup est cette espèce d'univers animiste, un peu sur le mode de l'indigène qui aurait réussi à préserver son environnement. Bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire d'Avatar,
oui,
où effectivement, c'est là pour le coup, les humains sont dans le rôle du méchant, hein, puisqu'ils viennent coloniser pour récupérer le minerai d'une planète. Et ils se retrouvent face à une population locale, les Na'vi, qui eux sont restés dans un mode très proche de la nature, mais un mode quasi déifié. Enfin, leur divinité est un arbre gigantesque qui s'appelle Eiwa, qui représente l'espèce de connexion de la collectivité avec leur univers. Mm-hmm. Et tout ça est symbolisé de manière très, très subtile. Voilà. Quand on tue un animal, il y a une espèce d'offrande qui est faite au sol, à la collectivité. Quand on chevauche les espèces de dragons ailés, il y a une forme de connexion entre la personne par la chevelure. Donc il y a donc spiritualité, parce qu'on est dans un univers où l'esprit, où la force de certaines valeurs est encore présente, et naturelle, parce que la connexion à la nature est restée très forte.
Alors ces 6 lignes de fuite, on le voit bien, elles viennent questionner plein de choses, notre rapport à notre environnement, est-ce qu'on fait écosystème ou pas, dans quel système politique rendre les choses possibles, comment on trouve ces équilibres-là. Et donc moi je me suis dit, une fois que j'ai lu le livre, j'ai dit très bien, maintenant comment on fait entrer tout ça, cette lecture dans le débat public. Et justement, le débat public, il a plusieurs niveaux. Tu disais tout à l'heure que tu as d'abord travaillé sur les échelles nationales européennes. Il y a ces échelles-là, internationales. Il y a aussi les échelles plus locales, où il y a aussi beaucoup de travail. La place des territoires, la décentralisation, c'est un sujet qui, le global local, qui est très, très concret aujourd'hui sur comment on va trouver justement cet équilibre pour préserver les ressources, etc. Et comment on peut justement faire entrer tout ça dans le débat public.
C'est justement grâce à une des fonctions de la science-fiction, qui est celle que j'ai appelée la problématisation, cette capacité à poser des problèmes. Donc typiquement, un des sujets avec lesquels on a commencé, qu'est-ce que serait une société qui pousserait les nanotechnologies à leur maximum? Et jusqu'où ça nous mènerait en termes de conséquences, et conséquences qu'on ne maîtriserait pas forcément. Donc le fait de mettre sur la table des problèmes et de montrer que tout ce que font les humains a des conséquences. Et c'est à nouveau le terme d'éthique du futur. Le sous-titre est important. La science-fiction, elle construit en quelque sorte, alors même si les auteurs ne pensent pas à ce genre de choses, mais elle construit une forme d'éthique des conséquences en montrant que tout acte humain aura des conséquences qui rejailliront potentiellement soit sur un individu, soit sur la collectivité.
Et alors, est-ce qu'il faut, j'ai vu par exemple en Belgique, là ils ont créé un outil, alors je ne sais pas à quelle échelle c'est utilisé, qui s'appelle Mike 2050, un peu le format du Serious Game en fait. Et où les gens peuvent intervenir pour tester finalement un peu des hypothèses, des scénarios, alors prospectives ou pas, mais en tout cas, est-ce que toute cette matière que tu as travaillée, on peut pas la réinjecter dans ces espaces qui commencent à s'ouvrir de débats sur des trajectoires? Donc je pense au Serious Game, en Suède il y a eu le ministère du futur, etc.
Ou même les jeux moins sérieux, les jeux vidéo sont pour le coup une meilleure manière encore d'incarner des choix. Enfin, je pense à des jeux comme Deus Ex sur la question du transhumanisme, où effectivement on voit des acteurs qui sont amenés à réfléchir à des choix personnels par rapport à des augmentations qu'ils ont subies. Donc certains jeux, alors de manière plus ou moins réfléchie, mais commencent déjà à intégrer le fait de problématiser certaines questions.
Mais quand on joue à ce jeu, alors, soit on joue, j'imagine, tout seul.
Ou collectivement. Certains jeux sont collectifs.
D'accord. Je ne suis pas du tout joué, je me suis arrêté à Tetris. Pour toute
pareil, mais ce qu'on appelle les jeux massivement multijoueurs en ligne, sont des jeux collectifs.
Les personnes qui vont y jouer collectivement, alors ils vont incarner, donc des questionnements vont être diffus. Mais le moment où, justement, ce point de basculement, où quelque chose de diffus,
c'est une autre question. Enfin, jamais un film ou jamais un livre n'a fait changer le monde à lui tout seul. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est qu'au moins, en mettant en débat certaines questions, en les mettant en relief, peut-être que ça amènera à discuter de certains sujets. Et après tout, on peut faire l'hypothèse qui est plus qu'une hypothèse, que certains films ont transformé la vision de... Moi, j'ai en tête les cas classiques de Soleil Vert, qui est un film qui a posé la question de la surpopulation, la question de l'épuisement de certaines ressources alimentaires, alors que les jeunes générations ont sans doute oublié, mais qui au moins, dans ces années 70, a mis sur la table un ensemble de sujets. Et j'ajouterais même que certains films, même si on n'y pense pas, et même si on ne le regarde pas comme ça, peuvent aussi amener à réfléchir. Je pense à des films comme Star Wars, qui me paraît très ludique, mais un des intérêts des Star Wars, c'est de montrer justement que les planètes sont différemment habitables, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur l'habitabilité. Et qu'en fait, pour que des planètes soient habitables, il faut un ensemble de conditions, et que ces conditions ne sont pas forcément toujours au rendez-vous, et qu'elles sont à préserver ces conditions. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un autre geste qui nous paraît anodin, qu'on voit dans certains films de SF, et qui, voilà, on se dit, mais oui, c'est tellement évident qu'on n'y réfléchit pas, mais c'est par exemple le fait de retirer son casque. Voilà, le héros qui va retirer son casque.
C'est toujours un grand moment, ça, d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est très mis en
scène. Que nous dit ce grand moment? Le grand moment nous dit que l'environnement autour de ce héros peut être considéré comme habitable, qu'il est respirable, qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies et que son environnement était préservé. Voilà. Donc le geste paraît anodin, mais c'est une manière d'inscrire à l'écran le fait que tout environnement n'est pas confortable pour les êtres humains.
Autre moyen peut-être de faire entrer cette lecture, cette façon d'approcher les futurs possibles sont, je me suis dit, les écouménités. Il faut que tu expliques ce dont il s'agit.
Ça, c'est la grande prétention théorique sur laquelle termine le livre.
Ouais.
Le livre s'inscrit dans un champ qui est en plein développement, qu'on appelle les humanités environnementales, qui est l'espèce d'assemblage, d'agrégat de différentes disciplines qui essaient de réfléchir sur les enjeux environnementaux. Donc c'est typiquement l'histoire de l'environnement, la philosophie de l'environnement, l'éthique de l'environnement, les sciences sociales, enfin bref, toutes les disciplines qui ont un rapport avec les humanités et qui essaient de réfléchir à ces enjeux écologiques. Donc ce qu'on appelle dans les sciences sociales les humanités environnementales. Ouais. Une des notions que j'essaie d'introduire ou de réintroduire dans le livre, pour justement dépasser un certain nombre de questions, c'est la notion d'écoumène, qui est une vieille question philosophique sur l'histoire de laquelle je vais pas revenir, que j'emprunte à un grand géographe français qui, qui est pas assez lu, qui mériterait davantage de considération, qui s'appelle Augustin Berke, qui a réintroduit cette notion d'écoumène en s'inspirant de la philosophie japonaise. Et l'intérêt de la notion d'écoumène, c'est que justement, elle insiste sur la relation. L'écoumène, c'est à la fois l'humanité en tant qu'elle habite la Terre, mais ceci la Terre qui est habitée par l'humanité. Donc la relation, elle marche dans les deux sens. D'où, je tire le fil du raisonnement, ce que j'essaie de montrer en conclusion, c'est que un des intérêts de la science-fiction, c'est de nous inciter à penser au-delà des humanités environnementales. L'humanité est plus l'humanité telle qu'on a pu la connaître. La nature n'est plus la nature, voilà. Peut-on encore parler de nature vu les degrés de transformation qu'on lui a fait subir? Et donc, j'arrive à la conclusion en me disant, humanité environnementale, c'est peut-être un peu daté, passons au post-humanité, post-environnementale. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire un saut théorique, autant employer des notions qui évitent justement l'anthropocentrisme. Voilà, ça n'est plus l'humanité par rapport à quelque chose qui lui sera extérieur, qui sera l'environnement. Passons directement à un nouveau champ de réflexion qui serait les écouménités, où là, pour le coup, on pourrait réfléchir véritablement aux relations et à la nature de ces relations entre toutes les espèces pensantes, humains, non-humains, intelligence artificielle, puisque potentiellement, c'est des espèces compagnons nouvelles qui viendront, des robots ou d'autres entités qui viendront nous accompagner. Donc avec ce saut théorique que je propose, on verra ce qu'il adviendra. Peut-être que dans quelques années, on parlera d'écouménité.
Oui, peut-être que dans quelques années, tu seras maître de conférence en écouménité à l'université.
Je le souhaite. S'il pouvait y avoir une nouvelle discipline auquel la science-fiction contribue. Mais l'idée, c'est ça, c'est de réfléchir aux relations et grâce à l'éthique du futur que propose la science-fiction, de réinscrire ces relations, donc non plus dans le présent et le présentisme, mais dans une ouverture vers le futur.
Les auteurs de science-fiction, qui sont-ils? Ce ne sont pas des oracles. Mais en même temps, je me suis dit, une fois que j'ai refermé le livre, je me suis dit, les auteurs qui ont, par une réflexion, leur capacité d'imagination, proposé tous ces possibles, finalement, ils ont peut-être plus à nous apporter que la simple lecture ou le visionnage de leurs œuvres.
Tout à fait. Je me souviens d'un petit cartoon qui comparait la science-fiction à la science politique, qui se moquait de la science politique en disant, en fait, la science-fiction, c'est la science politique, mais en mieux, quoi. C'est une manière de poser les problèmes, peut-être un peu moins sérieuse, mais avec un fond et une capacité à incarner ces problèmes. Voilà, ce qu'on fait chez nous en sciences sociales, la science-fiction, on apporte le complément. C'est-à-dire en donnant au futur des formes d'expérience, de laboratoire pour faire fonctionner des scénarios fictifs.
Voilà, tout à l'heure j'évoquais là en Suède, ils ont un ministère du futur. Je ne sais pas si l'expérience se poursuit, mais je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas une espèce de quelque chose comme ça, mais qui serait totalement collégial, ou les auteurs de science-fiction. D'ailleurs, dans le livre, à un moment, tu évoques, alors c'est l'entreprise, mais c'est Intel, qui a un labo de prototypage et qui travaille avec des auteurs de science-fiction.
Ils ont fait ça, l'armée américaine l'a fait aussi. Hein,
mm-hmm, bah oui, l'armée. Ici, oui.
L'agence spatiale européenne l'a fait aussi. Donc mm-hmm. ça reste très expérimental.
Ouais.
Mais on pourrait tout à fait envisager que la science-fiction devienne un matériau de réflexion pour réfléchir sur des enjeux collectifs.
Mm-hmm.
Et là, pour le coup, à nouveau, en donnant des incarnations à des hypothèses. Voilà. Et les décideurs qui nous disent, bah oui, on sait pas, mais il faut tenter le coup, je leur réponds, bah si, on sait. Dans certains cas, certains auteurs ou certains films ont expérimenté en nous montrant que si on fait ce choix-là, bah potentiellement, ça donne ces risques collectifs qui pourraient nous rejaillir.
Oui, et puis en plus, avec toute la masse de, rien que dans ton livre, moi j'imaginais en fait déjà un arbre des possibles, en fait, qui permet de dessiner tous les embranchements et qui dire, bah et si, et puis
d'aider
à faire des choix. Quoi.
D'où l'idée de compas de navigation que je propose.
C'est exactement.
L'espèce de boussole. Au moins, on a une série de polarités. Donc, il y a mes signes de fuite qui sont les polarités relativement désirables.
Mmh.
Et puis, il y a les autres polarités qui sont moins désirables et qui sont mises en scène par la SF.
Autre apport qui me paraît important de la science-fiction, c'est le vocabulaire. De pouvoir justement créer de nouvelles expressions et qui permettent de mettre ensemble des choses que dans le réel d'aujourd'hui, on n'associe pas et qui... Et les mots sont aussi là pour charrier des possibles, des
typiquement cyberspace ou cyberespace qu'on utilise couramment aujourd'hui.
Mmh.
En fait, c'est un terme qui vient de romans de William Gibson, qui est l'inventeur de ce terme de cyberspace. Donc c'est un terme qui vient de la SF.
Est-ce qu'il y a une encyclopédie du vocabulaire de SF? Ça existe?
Elle
ça,
existe en version anglophone.
D'accord.
Donc,
parce que ça aussi, ça doit être une porte d'entrée assez intéressante.
Tout à fait, je me suis appuyé pour partie dessus pour mon corpus.
Mmh.
Donc ça existe, mais en version anglophone.
Et puis les femmes. Les femmes dans tout ça. Alors, dans tes lignes de... Tu parles d'autrice, on en voit, mais je me suis dit, finalement, dans tout ce que tu balayes dans la première partie, les questions de démographie, de gouvernance, de rapport, d'environnement, etc., je me suis dit, c'est un vrai sujet depuis 50 ans, la place des femmes dans la société. Est-ce que la femme, c'est la grande oubliée de la science-fiction, ou faudrait que ce soit une clé d'entrée? Tu pourrais réécrire ton bouquin sur cette question-là.
Il y a une raison sociologique qui peut expliquer ce biais que tu mentionnes, c'est que la majorité des producteurs et consommateurs de science-fiction sont des hommes. Hein, voilà, donc,
et pourtant, j'ai bien noté que dans tes lignes de fuite, il y a des autrices. Hein.
Voilà, tu as raison d'y assister. C'est pas tout à fait anodin que la moitié des lignes de fuite je repère soient élaborées par des femmes. Tout à fait. Et l'écoféminisme est une branche relativement réduite de la science-fiction.
Oui, que tu évoques d'ailleurs.
Que j'évoque trop rapidement, mais c'est une branche à part entière.
Oui.
On peut faire l'hypothèse, et je fais cette hypothèse optimiste, que de plus en plus de femmes s'intéressent au domaine, et il y a de plus en plus d'auteurs écrivaines qui écrivent le SF. On peut penser que les choses vont changer, mais effectivement, enfin voilà, comme elle a été majoritairement écrite par des hommes, les questions évoquées sont des questions masculines ou qui reflètent des schémas de pensée masculins. Enfin, typiquement, le côté aventurier, explorateur de l'espace, plutôt que de se préoccuper des relations interpersonnelles, c'est un truc qui est typiquement masculin. Et l'intérêt des œuvres féminines, c'est qu'elles réinscrivent les relations dans des situations tous les jours où on voit effectivement qu'est-ce que c'est le rapport homme-femme.
Et d'ailleurs, c'est un point que j'ai pas relevé, mais ce que tu t'insistes aussi sur ce point, là, c'est que la science-fiction inscrit vraiment les hypothèses, les propositions dans du quotidien.
Tout à fait.
Le temps du vœu est bientôt arrivé, ça tu n'y couperas pas. Mais n'empêche, j'avais quand même, vers la fin du livre, juste un bout de phrase, tu dis « La science-fiction est une poétique des devenirs ». Je voulais le dire parce que là, depuis qu'on parle, je ne sais pas si ça fait une trentaine de minutes ou un peu plus, on a... parler du contenu de ces œuvres de science-fiction, on n'a pas du tout parlé de littérature, et je voulais rappeler que ce sont des œuvres, en tout cas pour ce qui est de la littérature, et de réintroduire cette idée de poétique, j'ai trouvé ça très bien de le dire à la fin du livre.
On n'y a pas beaucoup insisté, mais une des dimensions essentielles de la SF, c'est son esthétique et sa poétique. Voilà, ce sont des représentations, ce sont des images, c'est du style aussi pour certaines œuvres. C'est véritablement une poétique. Oui, tout à fait. Donc là, on a discuté de sujets... Alors, moi, dans mon bouquin, je la prends plutôt à la SF comme une littérature, une production d'idées, mais il ne faut pas oublier tout à fait que ces idées, ce qui fait leur force, c'est l'esthétique et la poétique qui les emballe, voilà. Et avec ces très belles images parfois au cinéma et ce style superbe de certains auteurs, enfin voilà. Malheureusement, la SF pâtit de cette image de littérature de garde, de basse qualité. Alors, faut dire aussi qu'elle a été mal traduite pendant un certain temps. Mais c'est des auteurs qui ont de plus en plus des vraies ambitions littéraires, et certains n'ont rien à envier à la littérature blanche telle qu'on la connaît.
Ouais. Donc c'est important de le dire.
C'est éminemment important. Voilà. Mm-hmm. Et j'espère que ce que je fais contribue à restaurer une image de la SF qui avait pu être dégradée à un certain moment. À
une certaine époque. Donc avant le vœu, quelle a été ta dernière claque en termes de que ce soit un jeu, un film, un livre, bref, on veut ton conseil.
Alors plus que la question, celle-ci était préparée.
Voilà, exactement.
J'ai réfléchi et j'avoue que j'ai eu du mal à trouver. Il y a rien. Il y a peu de choses. Parce que le problème, c'est que à force de fréquenter, comme je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses, on a du mal à trouver le truc qui soit avec la claque en plus. Donc ouais. J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Après, dans ce cas-là, peut-être pas la dernière, mais
ou alors les choses que j'aime bien et que j'invite à explorer. Il y a peu de BD malheureusement dans le corpus du livre. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup une BD qui s'appelle Urban de Ritchie et Brunswick.
D'accord, je mettrai la référence en description de l'épisode.
Au besoin, je la donnerai pour compléter.
Ouais.
C'est parmi les productions récentes qui m'ont le plus intéressé, là pour le coup, esthétiquement et narrativement. Donc il reste un tome, ou sinon pour reprendre les lignes de fuite, voilà, la réédition des Cotopia, même la retraduction des Cotopia est une très bonne nouvelle. Et après au cinéma, il y a des films que je considère comme sous-valorisés. Je pense à un film que j'ai hésité à mettre en couverture du livre, qui s'appelle Oblivion, avec Tom Cruise. Qui est une superbe métaphore du sort écologique d'une planète exploitée comme un citron à son maximum. Et là aussi, quand on décode le film et qu'on le regarde avec un œil plus attentif, il y a toute une série de prises à la réflexion. Film hollywoodien, blockbuster, avec une fin qui est la fin qui, à mon avis, gâche le film, enfin qui gâche le potentiel du film.
Ouais.
Je pense que le scénario a été réécrit par la machine hollywoodienne qui en a fait quelque
par
chose.
Par le banquier.
Voilà. Donc ça reste un produit, mais les trois premiers quarts du film méritent vraiment le détour.
Maintenant, ton vœu, Yannick, pour 2050.
Pour ceux qui se demanderaient d'où vient la couverture du livre, elle vient d'un film qui s'appelle Blade Runner 2049, qui est donc la suite du premier Blade Runner de Ridley Scott. Donc la pirouette avec laquelle je vais m'en sortir, c'est que donc le film se passe en 2049 et le vœu que j'ai pour 2050, c'est que le monde de 2050 ne ressemble pas du tout au monde tel qu'il est en 2049, dont on a une esquisse de représentation avec la couverture du livre.
Mais tu t'en sors très bien, belle pirouette pour le vœu. Bien vu, bien joué.
C'était pas facile.
Merci à toi.
Je t'en prie.
Je ne peux que vous inviter, maintenant que nous reposons les pieds sur terre, à vous plonger dans ce livre essentiel selon moi. Vous en trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode, ainsi que les coups de cœur de Yannick, Urban, Ecotopia et Oblivion. J'ai adoré cette rencontre, j'ai adoré cette conversation. J'espère que cela vous a plu aussi. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire connaître le podcast en lui déposant des étoiles sur iTunes. C'est hyper important pour qu'il puisse se faire connaître et atteindre de nouvelles oreilles. Merci pour votre écoute et à très vite. D'ici là, soyons toujours curieux.